À vous relever. Un petit peu d'exercice ce matin. Lendemain de veille, peut-être. Hein? Prions. Oui, Seigneur Jésus, comme on vient de le chanter, prends mon âme, Seigneur. Prends notre âme ce matin. Prends-nous dans tes bras d'amour et fais-nous du bien. Entoure-nous, on a besoin de toi. En ce monde, Seigneur, qui souffre, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous et le monde est inquiet. Mais Seigneur, devant toi, et on veut garder les yeux fixés, le regard fixé sur toi parce que tu es notre refuge, tu es notre rocher. Et avec toi, Seigneur, nous ne craignons rien, car tu es là et tu prends soin de nous. Prends soin de ton peuple ce matin à travers le monde, nos frères et sœurs, l'Église, l'épouse, comme on l'a mentionné plus tôt, Seigneur, celle que tu chéris plus que tout au monde, Seigneur, prends soin d'elle, protège ceux qui sont persécutés par leur foi, Seigneur, ceux qui osent prendre publiquement position au risque et péril de leur vie, de leur bien-être. Seigneur, accompagne-les, garde-les dans la foi. Oui, Seigneur, aussi, on veut te prier pour nos malades. Nombreux sont-ils parmi nous, même qu'ils ne peuvent se déplacer, qu'ils ne peuvent être avec nous ce matin. Sois avec eux, entoure-les, Seigneur, par derrière et par devant. Fais-leur du bien. Et Seigneur, pour nous ce matin qui sommes ici, nous voulons entendre ta voix à travers, Seigneur, celle que j'apporterai, ce message que tu as mis sur mon cœur depuis quelques semaines. Seigneur, parle à travers ton serviteur pour ce peuple qui a besoin de cette nourriture qui vient de toi. Alors, Seigneur, oui, donne-nous un cœur bien disposé afin de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin concernant ce géant de la colère, Seigneur, qui parfois nous habite et nous détruit l'Église. Alors, Seigneur, on veut t'entendre ce matin. Et aussi, Seigneur, que tu nous fasses une grâce toute particulière. Si ce matin, il y en a qui se posent des questions à ton sujet, que tu lèves le voile et que tu te révèles à eux. Alors, oui, c'est dans le beau nom, le puissant nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, oui, on continue, c'est la deuxième partie de cette série sur faire face à nos géants. Et pour mon message ce matin, je lutte souvent avec ça, je ne veux pas trop charger le message de multiples versets, mais en me préparant, je voyais qu'il y avait comme une espèce inévitablement, il y avait plusieurs versets qui venaient appuyer, qui venaient démontrer. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment prendre note de ces versets et ça peut-être aller trop vite. Alors, ceux qui notent beaucoup, j'ai pourvu un petit cadeau ce matin et Elia va distribuer une feuille avec les versets qui sont compris, tout inclus dans mon message. Si vous levez la main, et Elia va vous donner une feuille. Peut-être, c'est un petit exercice, garder la main levée. Peut-être s'il y a quelqu'un qui veut donner un coup de main à Elia aussi, il y en a beaucoup. Il faut que tu ailles vite, Elia, il y en a beaucoup qui ont levé la main. Alors, c'est bien, face à nos géants, et on regarde ce matin la colère. La colère et comment cette colère peut être contrôlée, si elle peut être contrôlée. Alors, notre colère, tel un volcan. Le 3 mai dernier, le volcan Kilauea de la grande île d'Hawaï est entré en éruption. Une rivière de lave s'échappant de sa marmite géante coule jusqu'à l'océan, causant une réaction chimique dans laquelle des nuages de vapeurs acides hyper toxiques s'élèvent dans le ciel d'Hawaï. Et une bonne partie de l'île est en état d'alerte constante selon la direction et la force des vents. Le Kilauea est le volcan le plus actif du monde et comme tous ses semblables, rien ne peut les arrêter lorsqu'ils arrivent au point de faire sauter le couvert de la marmite. Et généralement, le volcan donne des signes avant-coureurs qui annoncent l'éventualité d'une éruption, mais rien ne pourra l'arrêter. Rien ne peut arrêter une telle force de la nature. Alors, je vous propose ce matin que nos expressions de colère, telles un volcan qui fait éruption, hein, si l'éruption est assez longue, hein, il y a une coulée de lave qui va se rendre jusqu'à la mer qui nous entoure, tels nos proches, notre entourage. Et là, il va y avoir une réaction, comme la vapeur toxique, qui vous emprisonne, qui étouffe l'amitié, la cohésion, l'unité du couple, de la famille, du corps de Christ, de l'Église. La colère, c'est tragique. Le meilleur temps pour parler des sujets sensibles comme celui-là, c'est en temps de paix, en temps de calme. Hein? Il n'y a rien comme traiter du sujet de la colère le jour de la fête nationale du Québec, n'est-ce pas? Bon, n'oublions pas que c'est tout de même, à l'origine, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et soit dit en passant, Jean le Baptiste a prêché un message qui a provoqué la colère parmi les autorités religieuses de l'époque. Donc, on est en thématique, on pourrait dire. Alors, tournez avec moi dans vos Bibles, s'il vous plaît. Vous regardez au chapitre 4 du livre de la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est notre verset de ce matin, deux versets très courts, sur lequel on va élaborer, c'est comme mon tremplin, et c'est un verset que la plupart de nous connaissons bien. C'est un verset même qu'on a probablement cité à notre entourage, ou peut-être même à soi-même. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Lisons. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Il est important de noter que le texte original grec n'inclut pas la forme conditionnelle du « si », hein, au verset, au début du verset 26. Une traduction qui est plus près du texte original, comme celle de Darby, va dire ceci. « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Il faut premièrement savoir que le contexte du verset nous est donné au chapitre 4 qui est lié spécifiquement à comment je dois maintenant marcher dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Comment je marche comme chrétien en contraste avec comment je marchais dans ma vie avant d'avoir reçu Jésus. Et comment ma marche dans cette nouvelle vie influence la paix et l'unité dans l'Église. La colère peut être très personnelle, mais elle concerne toute l'Église. Paul tenait absolument à faire réaliser aux croyants d'Éphèse que la colère est bel et bien réelle, mais qu'elle doit être contrôlée, maîtrisée, arrêtée. Donc, j'ose vous dire ce matin que, règle générale, les chrétiens, les croyants, ont une mauvaise compréhension de la colère. Et cela mène à des tragédies qui, trop souvent, auraient pu être évitées si seulement on réalisait à quel point on joue avec le feu lorsque nous croyons être juste dans notre colère. Hein? Une colère qui est à nos yeux justifiée, entre guillemets. Alors voyons une définition de colère pour débuter. Hein? Colère, violent, mécontentement. Déjà le premier mot de la définition, violence. Violent, mécontentement, qui est accompagné d'agressivité. Ça peut être intérieur ou extériorisé. Des synonymes, courroux, emportement, fureur, irritation, rage, rogne. Et ce qui est intéressant ici, c'est le mot irritation, car c'est un mot qui est souvent utilisé dans différentes traductions françaises de la Bible pour exprimer un état de colère. Et on retrouve aussi le mot indignation, qui est un sentiment de colère, par définition. Alors, d'où vient cette colère? Je suis convaincu que la plupart d'entre vous avaient déjà répondu dans votre tête en disant, bien, c'est le péché. Hein? La colère, ça vient du péché. Vite comme ça, ça peut sembler une déduction tout à fait logique. Et ce que l'on connaît de la colère, ses effets, ses dommages qu'elle peut causer, nous porte à croire que la colère, il n'y a rien de bon dans ça. C'est le mal à son état brut. Eh bien, voici mon premier point que j'aimerais vous exposer ce matin. La colère. La colère, une réaction donnée par Dieu à l'égard du péché. Je répète, une réaction qui est donnée par Dieu à l'égard du péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a été créé à l'image de Dieu? Hein? Je pense qu'on est familier avec ce verset, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous reflétons l'image de Dieu. L'image reflète sa source, incluant ses émotions, ses passions, sa compassion. Hein, on sait que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est gracieux, il est juste. Et on sait que nous sommes, à l'occasion, dans une certaine mesure, capables de ces émotions, de ces sentiments. Mais Dieu est aussi un Dieu jaloux. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et voici quelques aspects de la colère de Dieu. Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. L'Éternel est en colère chaque jour, mes amis. Psaume 90, 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Moïse avait raison d'écrire ceci. Lorsqu'il argumentait avec Dieu, puis qu'il donnait toutes sortes de raisons pour pas aller faire ce que Dieu lui demandait. Et Moïse a été en première loge pour être témoin, avoir cet échantillon de cette colère qu'aucun homme ne peut saisir. Exode 4, 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Bon, Martin, peut-être que certains diront, ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Hein? Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance et c'est sous le thème de l'amour. Hein? All you need is love, chantent les Beatles. Hein? Mais cette pensée-là invaliderait le fait que Dieu ne change pas. Si j'accepte ce raisonnement-là, ça veut dire que Dieu change. Mais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est le même aujourd'hui, hier et demain. Ce même Dieu qui s'est manifesté dans la chair, qui s'est fait homme en Jésus-Christ, a fait la démonstration des émotions qui habitent en lui, incluant la colère. Jean 2, au chapitre 2, les versets 13 et 17, je ne les lirai pas, mais on connaît bien cette histoire où Jésus, ce fameux passage où Jésus, alors au début de son ministère, Jean chapitre 2, visite le temple à Jérusalem et fait une démonstration de cette colère. Et là, on est loin de l'image, cette image du monde qui se fonde de ce petit Jésus, doux et humble. On a là un homme qui parcourait le temple avec un fouet, terrorisant autant les hommes que les animaux, renversant les tables. Mais il faut premièrement comprendre ceci. Les Juifs qui venaient faire leur adoration annuelle de la Pâque étaient victimes d'un système d'extorsion institutionnel et légalisé par le système religieux. Et ça, ce n'était pas un incident isolé. On disait, ah ouais, mais c'est arrivé là, mais non. Non, pas un cas isolé. Hein. Jésus a refait la même chose à la fin de son ministère, lorsqu'il est retourné à Jérusalem pour la dernière fois. Hein. Même scénario, et on peut le lire en Matthieu chapitre 16. les marchands du temple avaient investi tout l'espace qui était normalement réservé aux non-juifs qui venaient adorer le seul vrai Dieu dans le parvis. Il n'y avait plus de place pour eux. Comprenez-vous ce qui pouvait se passer hein, dans l'esprit de Jésus à ce moment-là? Celui qui venait accomplir la rédemption, hein, le salut des Juifs et des non-Juifs également. Et on les gardait subtilement hors du temple pour des raisons pécuniaires. Voilà ce qui est important de comprendre ici. Jésus n'était pas en colère à cause de l'injustice qu'on faisait subir à lui ou qu'on lui faisait endurer. Mais sa colère était à propos de l'injustice que subissait le pauvre peuple, le péché commis envers Dieu. Sa colère n'était pas à propos de lui, mais à propos des intérêts de Dieu. Jésus a eu une réaction mesurée, rationnelle, mais pas une de tempérament. Il a réagi face à l'injustice. Et une autre occasion où Jésus eut compassion d'un homme qui avait la main sèche et qui l'a guéri sur le champ. Hein, on lit ce récit dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, verset 5. Remarquez l'état d'esprit de Jésus que donne l'auteur au verset 5. Hein, promenant, Jésus qui promène ses regards sur eux, hein, ces Juifs religieux autour qui l'examinaient puis qui attendaient, hein, ils attendaient le moment pour l'accuser. Promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Hein, avec indignation, dans le grec, hein, mi timo, avec colère, Jésus était profondément irrité de voir les dirigeants de ce peuple ne pas saisir le véritable sens de la loi, de ne pas comprendre qu'un acte de pure compassion pouvait surpasser le sens de la loi. Le doux Jésus était indigné, en colère, mais une juste colère. Pas à propos de lui, mais à propos du cœur endurci des hommes. À une autre occasion, la foule autour de lui, vous connaissez bien l'histoire, hein, qui se demandait comment ça se fait que Jésus ne pouvait-il pas sauver Lazare, alors qu'il venait de guérir un aveugle. Comment ça se fait qu'il n'a pas pu guérir Lazare? Hein? Et on lit cela dans Jean, chapitre 11, verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Dans le grec, on lit « violemment ému ». Un sentiment de violence intérieure, violemment élu. L'incrédulité de la foule qui cause une violente émotion en Jésus. Aristote, ce célèbre philosophe grec, écrit « Un homme qui est en colère, pour de bons motifs, contre la bonne personne, de la bonne manière, au bon moment, pour une période de temps raisonnable, cet homme mérite l'éloge. » Eh bien, à mon avis, la colère de Jésus incarne aisément toutes les clauses de cet énoncé. Et il y a donc dans ces différents récits un dénominateur commun qui est important de saisir. Et là, voici, ce qui est vrai de Dieu est aussi vrai de Christ. Lorsque Dieu a marché comme homme sur terre, il a connu, il a exprimé, il a vécu cette colère à l'égard du péché. C'est important de comprendre ça. Il a réagi profondément face au péché. Et l'apôtre Paul, se faisant imitateur de Christ, a lui aussi sa part de colère lorsqu'il a visité Athènes. Et on le lit dans Actes chapitre 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul était furieux en lui-même. Une réaction donnée par Dieu à l'égard du péché. Un péché d'idolâtrie contre la loi de l'Éternel, contre sa parole. Regardez ce que Paul écrit à propos de la colère à l'Église de Corinthe dans sa deuxième lettre. si vous voulez tourner, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 11. Et ça, c'est doublement intéressant. J'ai mis le texte à l'écran. Regardez bien ça. Et ça concerne spécifiquement la question de la colère. Paul écrit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Je m'arrête là. Voyez le contraste que Paul fait ici. Hein? Une tristesse selon Dieu, hein? En contraste avec une mauvaise sorte de tristesse, celle du monde. Hein? Tout comme une jalousie de Dieu, tout comme une mauvaise jalousie, tout comme une colère selon Dieu, comme une mauvaise colère. Je continue, verset 11. « Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? » Je trouve ça extraordinaire. Quel empressement ça a produit? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Voyez, Paul écrit qu'il se réjouit du fait que la tristesse selon Dieu, qui a produit cette repentance, qui les a menés à salut, a provoqué chez eux une indignation, hein, une colère envers leur péché. À un moment donné, ils sont choqués, ils ont dit « il faut que ça change ». Une réaction donnée par Dieu à l'égard du péché. Donc, pas pour rien que Paul écrit « mettez-vous en colère ». Ça peut sembler bizarre, mais que si nous sommes témoins du péché dans l'Église, dans nos vies, exerçons cette réaction donnée par Dieu à l'égard du péché. Mettons-nous en colère. Et de cette façon, on va refléter le cœur de Dieu pour cet amour à l'égard de son Évangile. En d'autres mots, si ça dérange Dieu, ça devrait nous déranger aussi. Si ça met Dieu en colère, ça devrait aussi nous mettre en colère. Une absence de réaction de notre part, c'est peut-être une indication qu'on a une tendance à accepter le péché. Est-ce que c'est possible, hein, que vous vous soyez dit à un moment donné, « J'ai comme pas l'impression de me choquer, moi, quand je vois le péché, quand je suis exposé au péché. Il me semble que ça ne me choque pas. » C'est peut-être un signe de détérioration de votre santé spirituelle. Lorsque je suis témoin du péché autour de moi, ou même chez moi, hein, dans ma propre vie, si ces choses ne me mettent pas en colère dans mon profond intérieur, j'ai lieu de me questionner sur la solidité, l'intimité de ma relation avec Dieu. Et la tristesse de notre histoire est que on a toujours eu plein de raisons de se mettre en colère pour des situations qui nous concernent directement. Mais très peu de fois, on s'est mis en colère pour les choses qui concernent Dieu, les choses que Dieu affectionne. Avoir une colère envers le péché qui attaque l'Évangile, qui attaque Christ, qui offense Dieu. Hein? Nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image de celui qui nous aime et qui a en lui toutes les émotions qui nous sont destinées, incluant sa colère, qui est aussi un reflet du cœur de Dieu. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Comment Paul peut-il alors associer la notion de péché avec une réaction qui est donnée par Dieu? Hein? On pourrait se poser la question, hein? L'émotion de la colère qui fait partie, hein, de l'homme, sachant que l'homme a été créé, hein, à son image, l'émotion de la colère en fait partie parce qu'il est le reflet du cœur du Créateur. Comment est-ce qu'on peut associer le péché dans ça? Eh bien, voici la réponse. Depuis la chute en Éden, cette même colère a dorénavant le potentiel de devenir une réaction du péché à l'égard de Dieu. C'est mon deuxième point. Une réaction, la colère, une réaction du péché envers Dieu, à l'égard de Dieu, depuis cette chute en Éden. On en a parlé tantôt, Nathanaël a passé sur le chapitre 3 de Genèse, où on a vu les ramifications de ce péché qui s'est étendu à l'échelle, comme il a dit, cosmique. Le péché, c'est manquer la cible, manquer le but, l'objectif exigé par Dieu dans ma vie. Le péché est hors la loi. C'est la rébellion contre Dieu. Et David, le roi David, comprenait bien cela. Quand il écrit dans son psaume, psaume 51, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce qu'il faut comprendre est ceci, hein, à son niveau le plus élémentaire, le péché est contre Dieu. Tous les péchés sont contre Dieu et David avait bien compris ça. Que j'aie fait ci à lui ou que j'aie fait ça à elle, j'ai péché contre Dieu seul. Regardez ce que la Bible nous raconte à propos de ce premier récit de l'homme suite à la chute. Genèse, chapitre 4, hein? Après la chute. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn est en colère contre Dieu parce qu'il préfère l'offrande d'Abel. C'est la première fois que la colère est mentionnée dans la Bible. Et ceux qui ont eu des enfants comprennent ça très bien, ce qui se passe. Un autre exemple, hein? Si un des enfants s'aperçoit que l'autre reçoit plus d'attention, watch out. Hein? Regarde-moi aussi, maman. Regarde-moi aussi, je suis capable de faire ça. Et on se vient, et si on les rebuque, on leur dit, « Non, 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 regarde, c'est pas de toi, je t'occupe, c'est de l'autre. » Et c'est pas long, hein, qu'il y a une réaction. Oui. Dès la première descendance d'Adam et Ève, on a un jeune homme qui est en colère contre Dieu. Et l'Éternel, je continue, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu obéis, hein, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Voici, hein, le même avertissement que Paul nous écrit dans Éphésiens 4, verset 26. « L'Éternel met en garde Caïn du péché, pouvant émaner de la colère. Il doit le dominer. » Mais Caïn n'a pas su le dominer et a tué Abel, son frère. Voilà donc la question qu'il faut se poser. Est-ce que ma colère est envers le péché ou bien est-ce que ma colère est envers Dieu? David Jeremy, qui est l'auteur du livre « Détruire les géants de nos vies », dans son livre, il écrit ceci. « La bonne sorte de colère est admirable, mais la mauvaise sorte est abominable. » Quand on se met en colère au volant, dans une file d'attente, ou après une imprimante qui ne veut rien savoir, puis on est pressé, etc., 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 ce sont tous des péchés contre Dieu. Je vous introduis un personnage fictif, Bob. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle À part Bob. Ben, c'est Robert, mais on va dire Bob. Là. Mais Bob, c'est pas Bob ici. Hein? Je m'excuse, Robert, c'est Bob. Je ne sais pas pourquoi ça, je suis parti avec ça. Bob est en colère contre plein d'affaires. Hein? Il est en colère contre son emploi qui ne paye pas assez, son patron qui ne comprend rien, les compétiteurs qui sont sans scrupules, les clients qui sont déloyaux. Il y a des problèmes de dos, des problèmes d'argent, etc., etc. Bob est un colérique chronique. Mais Bob est un chrétien. Bob, il aime Jésus. Il va à l'église. Il s'implique même dans un ministère. Mais Bob ignore son état colérique et ses conséquences. Parce que comme Bob, hein, c'est un peu le syndrome, hein? On est comme ça parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on désire recevoir. Et on reçoit ce qu'on ne veut pas. C'est comme ça, hein? C'est notre affaire, notre agenda, mes désirs, hein? Mes plaisirs. Sinon, quand ça ne fonctionne pas de même, kaboum, c'est l'éruption. Et ces problèmes-là, ce n'est pas le résultat des circonstances du hasard. Croyez-vous que Dieu est souverain? Hein? Est-ce que Dieu est souverain dans vos vies? Les bonheurs comme les malheurs, hein, qui nous permet, hein, qu'il permet dans nos vies pour nous travailler, nous transformer. Tout ce qui nous arrive, sinon il n'est pas souverain. Incluant mon patron désagréable. Mon mari qui laisse traîner sa serviette de bain trempe sur le lit après la douche. Le chauffeur qui me coupe sur l'autoroute. On en a-tu des raisons, hein? Et puis là, on se choque. Et le diable va se servir de notre colère pour détruire, nous détruire personnellement et détruire l'unité dans l'Église. On lui donne accès. On a tous nos cordes sensibles, puis on va l'admettre, hein, qu'on est tous, sans exception, coupables de cette mauvaise colère. Moi, le premier. Un monde qui souffre, c'est vrai qu'on a parfois toutes les raisons d'être en colère, parce qu'il y a de la souffrance autour de nous, et parfois, ça nous enrage de voir juste des cas dans les nouvelles, hein, les cas de mauvaise administration publique, hein, où est-ce qu'on reconnaît des gens, là, des bandits, qu'on pourrait dire, qui profitent des fonds publics, alors qu'on gagne, hein, 11$, et puis que là, qu'on se dit, hein, moi, il y a 2$ même qui participent à ça. C'est enrageant. On pense à ça et on se dit, « Hey, ferme la télévision, je ne veux pas écouter une nouvelle. » Ça nous enrage. Et un des problèmes de notre société, qu'on entend à la radio, à la télé, dans les magazines, c'est la psychologie moderne qui nous invite à laisser libre cours, hein, à cette colère. Libère tes émotions négatives. Hein. Faut que ça sorte. Si c'est en dedans, ça va, c'est pas bon. Hein? On va utiliser ça pour justifier l'action de ventiler sa colère. Un laisser-aller physique, verbal, hein, qui a un certain effet thérapeutique chez la personne qui refoule. Il faut que le méchant sorte à un moment donné, comme on dit. Laisse ça sortir, ça fait du bien. Mais c'est normal que le monde aime ça. C'est normal qu'on ressente ça parce que c'est un penchant naturel, hein, chez l'homme. C'est notre désir. C'est le genre de prescription qui fait vraiment notre affaire. Hein, qui n'a pas contemplé l'idée d'avoir un punching bag dans son sous-sol? Hein? Bon, c'est sûr. N'ayez pas honte si vous l'avez fait. Peut-être que vous avez épargné des coups de pied à votre chien, de garrocher l'imprimante d'un bout à l'autre du bureau. Vous avez vu ça, ces vidéos-là sur YouTube, là, le monde, là, la rage bureautique, là. Ils garochent les affaires, là, ils brisent tout, le clavier, tout y passe. Des cas de rage au volant. Un homme là, qui a démoli sa tondeuse parce qu'elle ne partait pas. À coup de masse. Sa femme l'a filmé. Je veux pas scandaliser personne ici, là, mais mesdames, quand monsieur, là, il est à bout là, dans le garage, c'est pas chic. Puis là, tu sais, vous demandez à votre mari quand il est, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu faisais dans le garage? Ah, je fais juste du ménage. Il fait du ménage. Posez pas de questions. On fait du ménage dans le garage, mais pas souvent dans la maison, hein? Vous connaissez l'histoire du gars que sa femme, il demande de passer à la balayeuse. Il n'avait jamais fait ça. Tu sais, la balayeuse au bout du tuyau, là, avec sur des roues, là. Pas la balayeuse centrale, mais une balayeuse là, qui se promène dans la maison. Il n'avait jamais fait ça, puis il ne savait pas comment ça marchait, mais elle dit « passe la balayeuse ». Et au bout de 10 minutes, il est retourné voir sa femme, enragé, choqué. Il a dit là, il dit « avant, je la tire au bout de mes bras, là ». Il a dit « vas-y ». Il a dit « ça fait 10 minutes, je la crains, puis elle part pas ». Hein? Il n'y a pas de moteur. C'est pour ça qu'on est dans le garage, les affaires à moteur. Mes amis, la Bible n'offre pas d'option dans les moyens, dans les façons d'exercer sa mauvaise colère. Il y a de multiples passages des Écritures qui condamnent cette mauvaise colère. Quelques-unes que je vous mets à l'écran. Galates 5:20, les querelles, les animosités, les disputes font partie de la liste des œuvres de la chair. Proverbe 29, verset 11, l'insensé met en dehors toute sa passion. Il ventile, hein? Mais le sage la contient. Psaume 37, verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait faire mal faire. Ce qui est intéressant, c'est encourageant parce qu'on entend de plus en plus dire dans certains cercles de psychologie que la colère excessive ou habituelle qu'on entretient là, aura toujours des conséquences négatives, autodestructrices, à la fois pour celui qui est en colère puis pour les gens autour d'eux. C'est-à-dire que certains remettent en question là, la pensée populaire de ventiler la colère, prétendant que c'est bon. Parce qu'ils disent que cette position-là, là, ça ne passe pas le test des résultats observables. Hein? On voit ce que ça fait. En d'autres mots, il y a des experts qui observent que l'exercice d'exprimer librement sa colère augmente, écoutez bien ça, augmente, solidifie un esprit d'hostilité et des habitudes nocives. Donc, même dans le monde, on reconnaît, peut-être sans le savoir, la sagesse et la vérité des Écritures. Voici donc 3 prescriptions pour vous ce matin, pour nous aider positivement à combattre cette fameuse colère malsaine. Hein? Ne nourrissons pas notre colère, ne propageons pas notre colère et pratiquons la colère inversée. Ne nourrissons pas notre colère. Éphésiens 4, verset 26, notre verset de ce matin, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Hein, tout comme un volcan, il y a comme un processus. Il y a une série de circonstances qui mènent jusqu'au déclenchement de l'éruption. Hein, il y a des tremblements de terre, il y a des vapeurs qui sortent par des fissures, ça craque. Là, les experts disent « Oh, c'est en veille de sauter! Hein? » C'est un peu, hein? il y a des signes. Là. La Bible nous demande de ne pas laisser le soleil se coucher sur cette colère qui bouillonne. Hein? C'est une figure de style de la langue pour nous inviter à faire le ménage à la fin de chaque jour. Faire le tour du jardin. Faire le ménage. Passer le balai. Hein? Ou est-ce qu'il y a des petits tas de poussière qui se ramassent dans la maison, dans un coin, où est-ce qu'on marche moins souvent? On les balaye. Mais il faut les mettre dans la poubelle. Pas en dessous du divan, pas en dessous du lit. Parce que là, il y a un coup de vent, puis ils ressortent. Hein? Parce que quand c'est mis dans la poubelle, on ne retourne pas fouiller dedans. On n'ira pas marcher dedans. Hein? Marlène, quand elle balaye, elle est très brave, hein? Parce qu'elle fait des tas. Elle fait des petits tas un peu partout. Elle fait le coin de la cuisine, elle fait un petit tas, elle fait un petit coin. Moi, je passe dans la cuisine. Hein. Si les tas sont là, moi, là, c'est direct. Hein. Je marche dedans à chaque fois. Là, elle dit, fais attention, toi. C'est déjà fait. C'est fait. Il faut y ramasser. Hein? Alors, c'est important de faire s'imposer. S'imposer une limite de 12 heures sur nos frustrations. Puis ensuite, les effacer comme Dieu. Comme Dieu a effacé nos péchés par la mort de Christ à la croix. Ou, dans une certaine mesure, dans la mesure du possible, prendre la résolution de se mettre en règle dès que possible. Si c'est avec quelqu'un, ça ne veut pas dire nécessairement de l'appeler si vous vous couchez à 1 h du matin, mais dire demain matin, demain, j'appelle mon frère, ma sœur, ou telle circonstance, il faut que j'aille régler ça. Parce que ça me travaille trop, ça bouillonne, c'est choquant. Je vous propose ce matin que gérer sa colère et se réconcilier avec ceux avec qui on est en colère, avec ceux qu'on a mis en colère, sont d'importantes occasions de croissance spirituelle. Soyons conscients du fait que l'on nourrit notre colère en voulant la conserver précieusement, parce qu'en quelque sorte, on a l'impression que c'est derrière elle qu'on va survivre. Il y a un pasteur qui a demandé un jour à une femme de son église, qui était divorcée depuis plusieurs années, et après tout ce temps, elle continuait de ruminer sa colère et son amertume à l'égard de son ex-mari. Et le pasteur lui a demandé à un moment donné, il dit, pourquoi ma sœur, tu ne tournes pas la page, tu ne te débarrasses pas de cette colère qui t'habite? Sa réponse a été la suivante, parce que c'est mon histoire. Et c'est la seule que j'ai. C'est un exemple à la fois triste, mais bien réel. Mais à un moment donné, c'est comme il faut écrire fin, hein, F-I-N, à la fin du récit, un point final, à la fin du paragraphe qui est plein de frustration puis d'irritation. Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Si seulement on pouvait réciter ça, après le 12 heures de permission, de frustration, de dire là, sonde-moi et ça, il faut que ça parte. Ne propageons pas notre colère. Deuxième prescription. Si vous êtes au stade, hein, si vous êtes rendu d'avoir suffisamment nourri votre colère intérieure, puis que les seules issues possibles sont la langue, puis la main, puis les pieds, pour que ça sorte, Éphésiens, chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La langue est une arme redoutable. La puissance des mots, hein? Une seule phrase, un seul mot, et je peux détruire mon épouse, et vice-versa. Après 5, 10, 15 années de mariage, on connaît assez l'autre. Hein, pour savoir exactement la petite phrase qui pourrait nous détruire mutuellement. Mais après 40 ans, on dit qu'il y a de l'espoir, puis c'est simplement à cause du fait qu'on finit par plus se souvenir. Il y a des pertes de mémoire qu'on dit, donc ça l'aide. Mais plus souvent, ce sont des mots, des expressions, des phrases, des gestes qui vont pas nécessairement détruire, mais des fois, c'est juste gratter un peu, hein? Un petit gratteur, ça gratte, une petite graffing. Puis à force de gratter, à même place, on va créer une irritation. Arrête de gratter là, il faut changer de place. Hein? Parfois, c'est des remarques à la blague, hein? Des remarques, des petites répliques incisives, hein? des petits messages déguisés en sarcasme. Il y a aussi des gens comme Bob, mon personnage fictif de tantôt, hein, qui ont une cassette. Hein? Ils ont une cassette et ils la font connaître. Hein? Ils veulent que le monde sache qu'ils souffrent. C'est faire connaître, vouloir là, que son entourage voit qu'est-ce qui nous définit. Et parfois, il y en a, c'est la colère qui les définit. Les gens ne voient plus Bob. Ils ne voient plus Bob. Ce qu'ils voient, c'est comme la colère, c'est une colère ambulante. C'est plus Bob. On se plaint, on est en colère et on le laisse savoir. C'est purement et simplement une expression de notre souffrance et inconsciemment notre colère contre Dieu. Et quand on souffre de colère, nos paroles n'ont rien d'édifiante. Et Jacques nous dit dans le chapitre 1, verset 19, « Séchez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et au verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyons donc lents à la colère, à l'image de celui que l'on reflète. » Le problème est que notre fusible, notre mèche, est tellement trop courte que c'est l'éruption avant même de réaliser qu'on est en train de se mettre en colère. S'il avait fallu que Dieu ait la mèche courte, comme la plupart d'entre nous, le peuple hébreu aurait cessé d'exister 2 jours après la traversée de la mer Rouge. Et pire encore, l'univers aurait été réduit en poussière après le premier coup de fouet que Jésus a reçu. Il aurait dit, « C'est fini, j'en prends pas plus. » Ça serait tout parti. Proverbe 19, verset 11, hein? « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. » Proverbe 29, verset 11, « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Pratiquons la colère inversée. Troisième et dernier prescription, c'est le principe, un peu comme le principe du judo, hein? Utiliser la force de l'autre, son momentum, hein, pour l'utiliser à son avantage. Romains chapitre 12, versets 18 à 21, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance ». À moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça neutralise. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La véritable colère qui fera justice dans ce monde ne nous appartient pas. Hein? Le Seigneur le dit, à moi la rétribution, ce n'est pas à nous. Mais tant que ça dépend de nous, soyons en paix avec tous. Et faisons du bien à ceux qui nous font du mal ou qui nous veulent du mal. Tentons même de faire du bien à la personne à qui on a fait du mal, peut-être même sans le savoir. Il y a cette anecdote, un type qui a raconté, à un moment donné, il était dans la ligne pour... le service à l'auto, je ne me souviens plus quel restaurant, pas d'importance, mais il y a comme 2 lignes qui se mettent en une. Et puis là, tu sais, il passe une après l'autre, puis il a comme coupé. Il a coupé l'auto, là, puis il s'en est vraiment aperçu, il dit, c'était pas à moi à passer, puis il a pris la place. La femme qui était dans l'auto en arrière était furieuse. Elle faisait des signes, puis écoute, là, je répéterai pas là, tout ce qu'il disait qu'elle mentionnait dans l'auto, là, mais elle était choquée après lui, elle avait la tête sortie de l'auto, là, puis là, toi, mon ci, puis mon ça, tu m'as coupé, puis à lui, il voulait fondre dans l'auto, là. Tu sais, puis il savait, puis là, c'était comme, excuse, mais tu sais, elle était choquée. Quand il a passé au service à l'auto, je ne sais pas si vous l'avez entendu, hein, il a acheté sa commande, et puis il a dit, la personne en arrière, il dit, je paye sa commande aussi. Il a payé, tu sais, il dit, écoute, il dit, je ne sais pas comment, là, tu sais, je voudrais m'excuser, mais il a comme payé la commande d'Adam en arrière. Fait que là, il s'est avancé, puis il a regardé dans le miroir, voir la réaction qu'elle ferait. Puis il était encore choqué, mais là, ça a l'air que quand elle est sortie, elle s'est arrêtée, elle est allée le voir, puis elle s'est excusée de l'avoir injurié. Tu sais, ça lui a fait plaisir de se faire payer son lunch, j'imagine. Mais c'est pour dire, hein? Hein? Ben, on peut baisser le ton. Baissons le ton quand l'autre lève le ton. Proverbe 15:1, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Je termine avec ceci. Souvenons-nous dans tout cela le prix, hein, le prix qu'a payé Jésus. Hein. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur lui lorsqu'il a été à la croix. Toute la colère de Dieu. Dieu est en colère contre l'humanité parce que le monde le rejette naturellement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais je vous invite ce matin à reconnaître votre condition si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Hein? La bonne nouvelle est que hein, nous sommes tous, Nous pouvons tous être gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Saisissez Jésus-Christ et il sera une arme redoutable contre votre colère. Demandons au Seigneur de nous prendre, de nous transformer tel que nous sommes aujourd'hui, tel qu'on est, tel que je suis. Prends-moi, Seigneur, transforme. Transforme mon état de colère en état de paix et d'amour pour ceux qui sont autour de moi. Intérieurement, donne-moi cette paix. Transforme-nous tel que nous sommes pour avoir cette victoire sur le géant de la colère. Alors, j'invite, on a un chant avant de quitter, Denis. Merci. On va chanter « Tel que je suis » afin de demander au Seigneur de nous, justement, de nous prendre tel que nous sommes, de ne pas espérer d'être par nos propres forces, être capable de changer cet état, parfois de colère qui nous habite, et lui demander vraiment de nous transformer, de nous prendre tel que nous sommes, et d'avoir cette transformation qu'on a vraiment besoin face aux géants de notre vie.
Thank you.
Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te voir agir dans nos vies, dans l'Église, Seigneur, pour l'unité, pour l'amour. Oui, Seigneur, on sait que cette colère qui habite en toi envers ce monde déchu qui te rejette, Seigneur, elle nous habite cette colère et on veut l'utiliser contre le péché, Seigneur. Alors, anime-nous de tes sentiments, Seigneur, et fais-nous du bien cette semaine. Protège-nous. Et bénis ton peuple dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.